Bonjour Alain.
Bonjour Eric, bonjour à toutes et bonjour à tous, et je le dis avec un grand sourire.
On entend ça. Aujourd'hui, vous nous parlez du naturaliste Pierre Belon en rappelant que vous étiez le week-end dernier dans la bonne ville du Mans.
Eh oui, une ville que j'apprécie particulièrement, comme vous avez pu le constater. Pierre Belon, qui est né en 1517 à Serranfouille-Tourte, c'est une commune de la Sarthe, justement à 25 km du Mans. Et Pierre Belon, qui fut l'un des plus célèbres, un des plus grands botanistes français. Pour ceux qui s'en souviennent, j'avais déjà évoqué cet homme au début de l'année, mais la lecture d'un sujet le concernant dans une revue extraordinaire, La vie mancelle et sartoise, je l'ai apporté avec moi. C'est une revue culturelle et touristique du Mans et de sa région. Eh bien, il y a eu un article fabuleux écrit sur justement Pierre Belon, signé Ginette Meunier. Eh bien, je reviens sur cet homme, car sa vie est un roman, mais un véritable roman.
Pierre Belon, il a débuté comme simple garçon apothicaire.
Oui, il a pour mission de cueillir et préparer les plantes médicinales et très vite, il est apprécié pour ses compétences. En 1538, il intervient dans le jardin du manoir de Tourvoix à Savigny-l'Évêque, lieu de villégiature de l'évêque du Mans. Ce jardin est le tout premier jardin botanique de France, avant même celui voulu par Henri IV à Montpellier.
Il semble donc normal qu'en un tel lieu, ce soit un homme d'église qui l'ait remarqué.
Et oui, et il s'appelle le cardinal de Tournon. Sans tarder, celui-ci lui propose de partir en Allemagne, suivre les cours de Valerius Cordius, un botaniste alors très réputé. Pour mieux converser avec lui, Pierre Belon apprend l'allemand, et il est doué, il apprend vite.
Et c'est à partir de cet instant que la vie de Pierre Belon a changé.
Il va devenir un véritable roman. Quand il rentre dans son pays, Pierre Belon est heureux. Il herborise paisiblement, dessine, crée des herbiers, rencontre des scientifiques et bien sûr cultive son jardin. Mais il y a un problème, il est de taille. En ce temps-là, l'Europe n'est pas en paix et un naturaliste qui parle allemand, c'est bien pratique. Il est donc envoyé outre-Rhin et en Suisse par les autorités françaises, non pour la botanique, mais pour espionner. Sa vie devient dangereuse et compliquée.
Espionner, heureusement cette mission ne va pas durer trop longtemps.
Oui, mais les problèmes ne cessent pas pour autant. En Allemagne, les théories religieuses de Luther ont conquis le territoire. Alors qu'en France, ces mêmes idées sont combattues. Pierre Belon est maintenant suspecté d'être protestant. La notion de présumé coupable étant inconnue à l'époque, il est emprisonné à Thionville, dans un cachot au confort plus que rudimentaire.
Et il est rapidement libéré après l'intervention, là encore, d'un homme d'église.
Et oui, le cardinal du Bellay, un prélat puissant connu pour protéger Rabelais. Pierre Belon s'installe ensuite comme médecin à Paris, puis accompagne le cardinal à Rome avant de partir en 1546 auprès de Soliman le Magnifique, le plus grand de tous les sultans de Turquie. Il est chargé par François Ier, non pas d'étudier les plantes, mais là encore, d'espionner pour le compte de la France. Fort heureusement, Pierre Belon profite de ses déplacements pour observer la flore de nombreux pays comme l'Égypte, la Syrie ou la Grèce.
Et Pierre Belon a publié son dernier ouvrage en 1558.
Des ouvrages extraordinaires, et ce dernier ouvrage a pour titre « Remontrance sur le défaut du labour et culture des plantes concernant la manière d'affranchir les arbres sauvages ». Ce sont des ouvrages contre les consultes absolument incroyable, joliment dessiné, les textes sont fabuleux et l'encre aujourd'hui encore plusieurs siècles après est toujours impeccable, vraiment des livres incroyables. Eh bien, toujours est-il que toute sa vie durant, ce grand botaniste a bravé les interdits, traversé les contrées inconnues, fréquenté des individus dangereux. Pierre Belon sera finalement assassiné à deux pas de chez lui dans le bois de Boulogne à Paris. Il n'avait que 47 ans.
Bon, c'est bien la peine si je puis lui dire.
Bah oui, c'est quand même un peu malot.
La vie et l'œuvre de Pierre Belon. Vous allez répondre maintenant, Alain Baraton, aux questions des auditeurs. Claude-Marie vous demande par exemple, est-ce que la cendre de sa cheminée est bonne pour son jardin ?
Dans la cendre, il y a de la potasse, et la potasse est bonne pour tout ce qui est fleurs et tout ce qui est fruits. Mais attention, pour que la cendre soit vraiment efficace, il ne suffit pas de saupoudrer le potager ou le verger, encore faut-il que la quantité soit importante. Il faut compter au minimum 500 grammes par mètre carré pour qu'il y ait vraiment une action sur le végétal. 500 grammes par mètre carré, ça vous transforme en fait votre jardin en une sorte de déchetterie à ciel ouvert qui n'est pas très esthétique. Donc, mettez plutôt la cendre sur le compost, ce sera beaucoup plus efficace que sur le jardin. Un jardin, même si on doit parfois lui mettre de l'engrais, il n'a pas pour vocation à enlaidir l'environnement.
Henriette vous demande, Alain, si elle peut semer des fougères.
Eh oui. Vous savez, quand vous regardez une fougère, généralement, sous la feuille, il y a ce que l'on appelle des spores. Mettez tout simplement une feuille de journal dessous, agitez légèrement la fougère et vous verrez comme une petite poussière qui tombe. Il vous suffit ensuite de semer délicatement ces spores sur une terrine de terre. Il vous suffit simplement de poser sur la terre. Vous ne tassez pas, vous arrosez légèrement et quelques mois plus tard, vous aurez effectivement quelques petites fougères qui pourront venir agrémenter votre appartement. Attention, température minimale conseillée, 20 degrés.
Hubert vous demande, comment éviter la venue des lentilles d'eau sur un étang?
Ben, y a pas grand chose. Alors, le mieux, c'est d'adopter un canard. Parce que le canard, voyez-vous, consomme la lentille d'eau. Certains vont vous dire qu'il faut brasser la surface de l'eau pour éviter la prolifération de ces petites plantes aquatiques vivaces et flottantes. Mais écoutez, moi, je constate qu'il y a quantité de petites rivières en France qui en sont recouvertes et pourtant l'eau circule. Quantité de bassins, d'étangs, eh bien, malheureusement, ont beau être nettoyés, la lentille d'eau revient. Donc je crois qu'effectivement, à défaut de canard, mettez des carpes koi, mettez des carpes amour, mais je ne connais pas d'autres méthodes, à moins effectivement que vous soyez sportif et que tous les matins vous preniez une épuisette, mais c'est pas évident. L'occasion de rappeler que les petites lentilles d'eau vivent dans les eaux riches en azote et qu'elles peuvent parfaitement être mises, là encore, sur le compost. Elles sont très bonnes pour l'environnement.
Les mots de Jean-Paul Belmondo, les canards c'est con, mais ça fait cossu.
C'est sûr.
Merci Alain Baraton. Un dernier conseil de balade pour le week-end.
Oh oui, rencontrer aujourd'hui Christophe Dolbeau qui présente un livre, on y reviendra d'ailleurs, sur le jardin de Jean-Pierre Coff. C'est un livre magnifique publié chez Larousse. Eh bien aujourd'hui, il sera à la librairie du coin à Châteaudun, accompagné de Christophe, de Georges Lévesque, le photographe. C'est un ouvrage donc qui a été fait avec Catherine Delvaux, votre homonyme. C'est un ouvrage, on y reviendra parce que vraiment magnifique.
Il n'y a rien au Mans cette semaine.
Non seulement un homonyme, mais Catherine Delvaux, c'est ma sœur.
Je sais. Je le savais.
Bon. Merci Alain Baraton.
Il n'y a rien au Mans cette semaine.
Non, on va arrêter avec le Mans un petit peu.
Mon papa était né en 1912 au Mans.